Les périphériques vous parlent sur Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission. Alors fort à propos, compte tenu de l'actualité, notamment lorsque l'on a le quasi-dénouement, par exemple, des vaccins H1N1, avec certains voyant là une tragicomédie, on est peut-être dans un problème de lobbying ou pas. Peut-être que Roger Langlais, qui est notre invité aujourd'hui, pourra... peut-être en ouverture justement de nos entretiens, nous faire part de son sentiment par rapport à cette histoire qui, d'une manière ostentatoire, nous met devant un cas qui pourrait nous faire à croire qu'effectivement, il y a eu du lobbying, il n'y en a pas eu, ces vaccins restant en rade, etc., etc. Donc nous accueillons Roger Langlais, c'est pas la première fois, puisque déjà on avait pu faire une émission avec lui sur de l'indignation comme concept politique. C'était il y a quelques mois, je crois. Et puis, bien avant, nous avions fait des entretiens avec Roger concernant un ouvrage qu'il avait publié antérieurement qui s'appelait « Profession corrupteur ». Et nous avions avec lui réalisé des entretiens dans un numéro de la revue « Les périphériques vous parlent ». Alors aujourd'hui, Roger Langlais vient de sortir un ouvrage. Enfin, c'est plutôt la Légion de la Mutualité française qui édite votre ouvrage, Roger, qui s'appelle « Lobbying et santé » ou « Comment certains industriels font pression contre l'intérêt général ». Alors, Roger, pour vous présenter, vous êtes à la fois philosophe et en même temps journaliste d'investigation, notamment sur des champs spécifiques concernant ce qu'on thématise avec les mots de lobbying et de corruption. Alors, vous aviez déjà travaillé antérieurement sur les questions de lobbying de la santé. Cet ouvrage fait une brillante synthèse d'un certain nombre, de zones floues sur trois champs qui concernent à la fois le lobbying du tabac, les cigarettiers, comme vous les appelez, les alcooliers, et puis ce qui se passe notamment avec les laboratoires pharmaceutiques, avec aussi une enquête historique très pointue. On aura l'occasion de parler des détails croustillants mentionnés concernant l'histoire du tabac, notamment en Europe, et comment on a eu finalement des... Enfin, on y reviendra, je ne vais pas m'avancer trop tout de suite. Mais si on parle de lobbying, par exemple, pour, disons, achoper une question d'actualité immédiate, celle... des laboratoires pharmaceutiques ayant, en quelque sorte, répondu à l'appel d'offres de l'État pour faire rempart à cette grippe H1N1 qui devait être, en quelque sorte, un désastre potentiel en termes de santé publique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à votre appréciation de cette affaire-là en particulier ?
Alors, dans cette affaire, ce qu'il faut rappeler... Et ce qui n'a pas été assez suffisamment dit, enfin, au lancement de la campagne de vaccination massive, c'est qu'on a une ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui a un passé de lobbyiste, et précisément de lobbyiste pour son propre laboratoire, qui s'appelait Sogy Pharm, et dont l'unité de production était basée à Conakry. Et qui a aussi un passé de professionnel de relations publiques pour d'autres laboratoires et de visiteuse médicale. Il est évident que Roselyne Bachelot, à cette époque, qui avait disparu récemment de son CV, d'ailleurs, depuis qu'elle était ministre de la Santé, comme si ces 10 à 12 années-là étaient suffisamment... douteuse ou en tout cas inavouable pour les effacer de son CV, alors qu'on a d'autres détails dans son CV qui donnent jusqu'à la structure de petits produits qu'elle a expérimenté dans le cadre de sa formation. Ce passé qui est aussi un passé de pharmacienne, c'est un passé où elle a tissé manifestement des réseaux. C'est son propre relationnel dans le monde de la pharmacie et des laboratoires, et dans sa position de ministre de la Santé, faut le dire, si ces 10 années ont disparu de son CV, c'est tout simplement parce que ça risquait de mettre en valeur, ou d'éveiller un soupçon de conflit d'intérêts ou de sensibilité particulière aux arguments des laboratoires pharmaceutiques. Donc Il n'y a pas d'autre explication. Et elle-même, d'ailleurs, c'est pas expliqué, c'est jamais expliqué, sur la disparition dans son CV de cette période. Si on regarde du côté maintenant du groupe d'experts qui ont poussé à cette vaccination massive, eh bien, on a des experts payés par les laboratoires. Donc là, manifestement, le ministère n'a pas su s'entourer des experts indépendants qui étaient requis dans ce genre d'affaires. Alors, ce qu'il faut dire maintenant, au-delà de cet épisode sur le vaccin de la grippe, si la vaccination massive semble avoir été une solution, une mesure outrancière, en tout cas prise dans le cadre de décisions qui n'étaient manifestement pas indépendantes, la tradition quand même pour les campagnes de vaccination en France est toujours sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques et de leurs experts siégeant dans les commissions faisant autorité sur les autorités sanitaires, eh bien ces campagnes de vaccination sont généralement massives et en fait parfaitement contestables justement dans leur caractère de généralité, là où des mesures de vaccination sur les groupes à risque seraient beaucoup mieux indiquées, donc plus économes en termes de coûts, peut-être plus économes en termes d'effets secondaires aussi du coup, mais aussi plus adapté pour suivre précisément les groupes à risque, les convaincre de se faire vacciner. Et là, pour le moins, l'affaire est complètement ratée, puisque à l'arrivée, moi, ce que je remarque, c'est que historiquement, on n'a jamais eu, c'est la première fois en France, qu'on a une telle méfiance de la population et que les médias, beaucoup de leaders d'opinion eux-mêmes ont pris position contre cette campagne de vaccination massive, et ont dénoncé la dramatisation à outrance autour du risque d'épidémie et même sur la gravité de la grippe elle-même, puisque maintenant, effectivement, en faisant la comparaison, on s'aperçoit que la grippe saisonnière semble tuer beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, et qu'il n'y a pas la même dramatisation, bien au contraire. On a, bref, en France, pris la sale habitude d'entrer dans la logique des laboratoires qui, pour des raisons financières, ont tout intérêt à défendre une vaccination massive, même quand ça concerne que des groupes à risque, et quand on serait beaucoup plus efficace, même pour lutter contre la maladie, si on visait des groupes à risque, où précisément, là, on peut être extrêmement persuasif, alors que quand on veut vacciner la population tout entière, on n'a plus aucune visibilité, en gros, sur qui ne se vaccine pas et pour quelles raisons, etc. On n'a plus du tout d'approche épidémiologique sérieuse. Bref, on a une situation qui, pour moi, est historique parce que, précédemment, la question du lobbying entre le ministère de la Santé et des laboratoires n'était pas sérieusement posée à propos des campagnes de vaccination. Et là, pour la première fois, on voit des médias qui, tout à coup, demandent des comptes au ministère de la Santé, lui rappellent des périodes de son CV qui ont été effacées, et une opinion publique qui se méfie, qui a, donc, semble-t-il, appris à se méfier sur ce coup-là, Et donc des journalistes qui commencent à s'intéresser à cette activité qu'on appelle le lobbying.
Ouais. D'ailleurs, si on fait sur un moteur de recherche Google ou autre lobbying, on trouve des cabinets de lobbying, des écoles de lobbying. Donc, à la différence du mot de corruption qui n'a pas de visibilité publique autrement que pour être dénoncé ou pour être incriminé comme une pratique illégale, illicite, les activités de lobbying qui s'apparentent à certaines activités de corruption, elles, ont droit de cité. Elles sont même, l'activité spécieuse que représente le lobbying, même s'il est condamnable déontologiquement, peut s'afficher comme, effectivement, dans le rapport des forces économiques en présence, comme une activité, non pas louable, mais nécessaire.
Voilà, c'est ce qui est défendu aujourd'hui. Voilà. C'est ce que les lobbyistes qui font leur propre lobbying, pour leur propre groupe, leur propre corporation, puisqu'il est de plus en plus souvent mis en cause. Donc aujourd'hui, les lobbyistes font de la pub pour le lobbying et ils réussissent globalement très bien, puisque les élus, notamment les parlementaires, sont devenus en grande partie leur meilleur relais et leur servent de faire valoir en disant que les lobbyistes sont nécessaires pour l'information du décideur politique qui ne peut pas connaître tous les dossiers, etc., etc. En réalité, il faut savoir que les lobbyistes leur mâchent littéralement le travail, leur rédigent les lois ou les propositions, les projets ou des articles particuliers. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé historiquement pour les journalistes. Un des pionniers du lobbying, Ivy Lee, aux États-Unis, avait inventé ce qui aujourd'hui paraît tout à fait naturel et qui devrait être beaucoup plus contesté. Il avait inventé le communiqué de presse, ce qu'on appelle le communiqué de presse, pour, disait-il, mâcher le travail des journalistes, pour manipuler les journalistes, envoyer-leur de l'information bien rédigée, bien sélectionnée, bien orientée, etc. Faites-leur leur papier, littéralement, dans ce communiqué de presse. Et aujourd'hui, on a souvent des journalistes dont la plainte principale vis-à-vis des sources d'information, c'est « votre communiqué de presse n'est pas assez développé hein ». Autrement dit, je peux pas le reprendre tel quel, quasiment, faire mon coupé-coller et m'en servir à gagner du temps. Le communiqué de presse est banalisé. Alors, il faut rappeler que c'est une technique de lobby, c'est une technique de pression et de manipulation des journalistes, inventée donc par les pionniers américains du lobbying.
Oui, notamment et... deux personnages notoires.
Alors, deux personnages notoires, Ivy Lee et Edward Bernays. Ivy Lee, qui est son aîné. En fait, avait inventé les premiers communiqués de presse pour redresser la, pour redorer le blason de Rockefeller qui avait fait tirer sur la, sur une foule de grévistes avec enfants présents et épouses et qui pour redresser donc l'opinion, enfin son image dans l'opinion, avait embauché Ivy Lee. Qui gérait donc à l'époque les crises, comme on dit, qui faisait de la gestion de crise et qui donc avait réussi à le persuader de notamment de créer une fondation philanthropique entre guillemets et donc qui avait mis en place cette technique du communiqué de presse qui ensuite s'est généralisée et qui marche extrêmement bien aujourd'hui puisque on pense même plus à la dimension manip, en fait, qu'il y a dans le communiqué de presse.
Alors, on pourrait revenir, puisque avant de parler du tabac, qui est vraiment un cas assez truculent, on pourrait peut-être revenir sur, puisqu'on évoquait les laboratoires. Bon, vous étudiez dans le détail tout ce qui se passe au niveau des commissions d'experts, notamment pour les autorisations de mise sur le marché de certains médicaments, hein, donc avec des obstacles qui peuvent être levés d'une manière trouble ou parfois respectés. Enfin, vous rentrez vraiment dans le détail de la manière dont ce que sont les instances légales qui font que notre pharmacopée actuelle sur le marché. Mais par contre, vous dites qu'il y a des... Au niveau il y a des phénomènes quand même fort curieux. Par exemple, vous dites à un moment donné, l'industrie pharmaceutique, on revient sur cette surmédicamentalisation, vous dites que certains experts disent, effectivement, la France est en Europe le plus grand consommateur de médicaments, mais en même temps, regardez, c'est là où la longévité des êtres humains est la plus vivace, la plus longue. Donc, il y a aussi des contre-vérités qu'il faut diagnostiquer. Et vous dites, par exemple, sur la définition des pathologies qui vont amener à produire un médicament censé corriger un trouble ou un état psychologique. Vous dites, par exemple, l'industrie pharmaceutique privilégie aussi une voie de recherche qui consiste à redéfinir comme pathologique des phénomènes anodins, des émotions naturelles et des états psychologiques liés à des problèmes sociaux ou humains tels que la tristesse, la peine ou la révolte, afin de proposer des traitements pharmaceutiques. C'est ce que les spécialistes appellent le « disease mongering », autrement dit l'art de fabriquer des maladies pour vendre des médicaments. C'est quand même extraordinaire, ça.
Oui, c'est tout simplement faire entrer dans une vision pathologique, donc une médicalisation d'un trouble naturel qui fait partie même de la condition humaine, quelles que soient ses conditions d'existence, comme la tristesse, il est normal d'être triste et joyeux à certains moments, etc. C'est pas le signe d'une maladie bipolaire, comme trop souvent on veut le faire croire, d'avoir des périodes plus difficiles dans son existence, donc plus malheureuses, plus tristes. Et le simple fait de mettre des termes médicaux psychiatrisants, Il y a un truc qui m'a frappé récemment, par exemple, c'était les gens qui parlaient de stress. Le mot stress revenait tout le temps et je me disais, c'est drôle parce que c'est tout à fait significatif. Le mot tristesse avait complètement disparu de leur vocabulaire. Là où on aurait dit autrefois tristesse et puis tout le vocabulaire classique qui va avec, c'était le mot stress qui recouvrait tout. Ça me fait penser un peu comme aujourd'hui j'entends de plus en plus souvent la maladie bipolaire. Là où précisément il y a simplement des changements d'état qui chez certaines personnes peuvent être extrêmes, effectivement, entre la tristesse et la joie. Les montagnes russes, quoi, hein, de l'émotion et les états d'âme qui peuvent être...
Cyclothymie aussi. Oui.
Alors autrefois, on disait cyclothymie, mais vous voyez, tout ce vocabulaire cyclothymie et tout ça, ça c'était... Donc c'est le vocabulaire médicalisant. Le mot stress lui-même est médicalisant. Ce qui me frappe aussi, c'est que pour tout un tas de rituels intimes, là où on aurait dit rituels intimes autrefois, aujourd'hui on dit trouble obsessionnel compulsif ou TOC. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point la guerre des mots, qui consiste à remplacer des termes souvent très nuancés dans notre langage, un vocabulaire très riche et très précis, on y substitue des mots qui ont une apparence de modernité, une apparence aussi de comme pouvant porter des solutions, c'est-à-dire que quand vous dites maladie bipolaire à quelqu'un qui va très mal, qui a des épreuves difficiles, etc., pour plein de raisons, quand vous dites maladie bipolaire, ça signifie tout de suite derrière, et je peux vous assurer que c'est perçu comme ça, ça veut dire traitement possible. Et ça, immédiatement, ça rassure tout le monde, et même ça donne envie à tout le monde. Faut savoir qu'aujourd'hui, la Bible de la psychiatrie américaine, enfin l'ensemble des psychiatres américains, on va dire, et mondiaux, commence à accepter comme tout à fait normal, par exemple, de prendre des pilules quand il s'agit de passer une épreuve comme le bac, le certificat d'études, enfin le certificat d'études des diplômes plus élémentaires, ou le permis de conduire. Et c'est-à-dire que il y a des termes pour désigner ces états d'excitation, d'énervement ou d'anxiété, des termes psychiatrisants, banaliser l'idée qu'il s'agit d'états à corriger par des médicaments qui font partie de la classification psychiatrique et qui tendent à donner une vision, on va dire, banalisée du médicament qu'on prendrait pour chaque moment. Et on a aujourd'hui, donc, en prévision, là, les médicaments pour le stress de la femme délaissée, pour l'homme divorcé, les médicaments pour les moments d'énervement comme dans les embouteillages, par exemple, ça y est, c'est rentré dans la classification officielle. C'est-à-dire que vous énervez en bagnole parce que c'est des situations agressives et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans les embouteillages. Aujourd'hui, c'est considéré comme une pathologie qui relève d'un traitement possible. Et on a, sans s'en rendre compte, donc, aujourd'hui, céder dans le vocabulaire et donc dans les pensées à une vision qui tente à tout simplement tout pathologiser. Et on se retrouve dans un système de représentation qui ne met en valeur, on va dire, que la permanence des états. Ce qui est une espèce de fiction philosophique qui fait penser à l'ataraxie, c'est absence de trouble, hein, comme s'il était finalement bon et évident qu'il faille rechercher donc cet état d'ataraxie, c'est-à-dire d'absence de trouble, hein, qui serait l'expression aujourd'hui de l'équilibre, de la santé mentale, alors que c'est une vision précisément qu'on peut ne pas partager du tout et considérer que vouloir absolument être toujours serein, c'est le meilleur moyen pour s'abrutir littéralement, quoi.
Mais justement, en plus, on a des effets toxicologiques qui peuvent être parfois dramatiques sur certaines affaires que vous citez, qui sont ensuite difficilement prouvables. C'est-à-dire que ça traîne, c'est-à-dire que certains médicaments ont pu tuer des personnes, on a pu l'avérer que très tardivement, lorsqu'il était véritablement trop tard. Donc là, il y a aussi des effets toxicologiques évidents qui fait que le pharmacon revêt plutôt son aspect de poison que remède dans bien des cas.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les médicaments, dans la plupart des cas, sont autorisés sur le marché pour des indications, on va dire, pathologiques avérées. Et le travail de lobbying va consister en amont à faire accepter dans les classifications des troubles qui, en soi, sont absolument pas graves et qui sont même naturels. Bon, autrement dit, par la petite porte de la gravité de la situation de pathologique, donc de la maladie et de la réponse à y apporter, on justifie des médicaments qui ont un rapport bénéfice-risque qui est favorable donc à leur leur consommation. Bon, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, je prends un exemple très précis. La diarrhée du nourrisson. Bon. Pour le dire tout bêtement, les selles du nourrisson sont normalement molles. Voilà, un bébé, ça chimou, c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'il faut lui filer des antidiarrhéiques. Il y en a à peu près 52 aujourd'hui qui sont déconseillés, fortement déconseillés par l'OMS, et que les praticiens continuent à prescrire sur la base de l'information publicitaire, on va dire, qui est distribuée gratuitement dans leurs journaux sans abonnement, dans leurs journaux professionnels, alors que dans la plupart des cas, des simples sels de réhydratation et une réhydratation sont suffisants. Bon, même si, d'une certaine façon, il ne faut jamais considérer à la légère une vraie diarrhée du nourrisson, puisqu'il peut se déshydrater très rapidement, en quelques heures, et être en péril. Mais il faut savoir que la plupart des antidiarrhéiques mis sur le marché sont inefficaces et dangereux. Et souvent, ils prennent la place tout simplement des sels de réhydratation qui ne coûtent rien du tout. C'est pour ça qu'ils ne sont pas commercialisés d'ailleurs par les labos. Et qui n'ont toujours pas le statut de médicament en France. Et donc là, il y a un combat d'un certain nombre, notamment de prescrire, la revue Prescrire. Donc, une des seules à fonctionner sans publicité des labos pharmaceutiques, donc à ne pas être lobbyé, en tout cas pas par les labos, et donc qui mène un combat pour doucement amener les praticiens à prescrire des sels de réhydratation en première indication. Et donc voilà, l'exemple, bon, il y a aussi la régurgitation, encore plus éloquent, la régurgitation du nourrisson, donc on a toujours connu ça, après avoir donné le biberon. On attend le rot du nourrisson avant de le coucher, parce qu'il va y avoir donc ce rot, cette régurgitation, et encore un certain nombre de mères ou de pères le mettent sur l'épaule et lui tapotent le dos pour accélérer la venue du rot, donc ce qui était voilà, la pratique ancestrale. Mais aujourd'hui, les labos pharmaceutiques et les praticiens donc, prescrivent des médicaments pour empêcher cette régurgitation.
Et comment d'ailleurs un médecin, puisqu'on ne pourrait pas soupçonner un médecin en tant que profession libérale individuée, en quelque sorte d'avoir une collusion de type d'intérêt économique avec des laboratoires pharmaceutiques, quelle est la position, à votre avis, des soignants aujourd'hui qui délivrent des ordonnances? Quelles connaissances ils disposent de la nature des médicaments, justement, qu'ils vont prescrire?
Alors là,
s'il y a des complaisances, est-ce qu'il y a un recours un peu trop réflexif, enfin réflexif au fond du réflexe,
pas très réfléchi, oui. Alors en fait c'est quand même un système. Il faut voir que les médecins globalement se sont historiquement laissés enfermer,
notamment le recours systématique des gens aux antibiotiques d'ailleurs.
Oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les médecins se sont laissés enfermer donc par les laboratoires pharmaceutiques dans un système d'influence extrêmement verrouillé aujourd'hui et qui démarre dès le début de leurs études. C'est-à-dire que bon, on sait en gros, pour parler que de la formation initiale, hein, donc les études de médecine pour devenir médecin, aujourd'hui on fabrique des prescripteurs. Voilà. Et les médecins le disent eux-mêmes et le dénoncent de plus en plus souvent, c'est-à-dire qu'on nous a formés à distribuer du médicament. Et l'investigation clinique a tendance à disparaître complètement, c'est-à-dire qu'on la remplace par des prescriptions d'examens avec de l'imagerie médicale, enfin tout un tas de systèmes très coûteux qui sécurisent tout le monde.
Qui coûte relativement cher aussi, donc ça permet aussi
extrêmement cher, mais les médicaments aussi, cela dit, hein, ouais. Les médicaments innovants ou faussement innovants sont extrêmement cher. Et donc les médecins sont formés à prescrire du médicament. Et on parle même de diagnostic par médicament. C'est-à-dire, vous avez un trouble, je ne sais pas trop ce que c'est en tant que médecin, je vous file tel médicament. Et puis, si vous ne revenez pas à me voir avec le mal qui persiste, c'est que c'était bon. Donc je ne sais pas trop ce que vous aviez, mais je vous ai filé un médicament par exemple, à spectre large, et plus l'effet placebo de la séance d'auscultation de l'ordonnance et des médicaments qui souvent sont absolument inefficaces en eux-mêmes, c'est-à-dire que, bon, qui sont des vrais placebos, tout ça fait que ça rentre dans l'ordre, donc c'est bon. Et le médecin souvent ne sait pas exactement donc ce que vous aviez. Ça, je vous le dis, c'est des déclarations des médecins eux-mêmes, je ne me permettrai pas de l'inventer. Et notamment les médecins qui travaillent pour la revue Prescrire ou pour PIMED, etc., ben, ont ce type de discours, c'est-à-dire reconnaissent que l'essentiel de cette relation fonctionne sur un effet placebo de la prescription, ce qui fait que beaucoup de patients se plaignent de ne pas avoir une ordonnance bien remplie. Enfin, quand l'ordonnance est pas suffisamment remplie, ils se plaignent. Et en fait, ça va nuire à l'effet placebo, ouais, auquel ils sont habitués avec cette symbolique du médicament très efficace. Il faut savoir aussi que les laboratoires pharmaceutiques ont fait du lobbying auprès des écoles, puisqu'ils avaient mis en place un système d'intervention qui s'est interrompu maintenant à ma connaissance, qui consistait avec une valise pédagogique à venir dans les classes et à expliquer aux enfants qu'il fallait pas prendre n'importe comment les médicaments, etc. Et donc, sous le prétexte du bon usage du médicament, essayait d'habituer les enfants à l'idée que pour tout trouble, il y avait des médicaments qu'on pouvait prendre.
Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle entre, comment dire, le fait de prendre justement sur la base d'une biologie des émotions et d'une sorte, disons, de composition quasi moléculaire de nos émotions et de notre rapport à nos émotions, avec la manière d'infléchir justement sur cette molécule délétère qui habiterait notre corps et qui nous... On parlait de la bile avant au Moyen-Âge ou des choses comme ça. Qui est aussi une métaphore des émotions indésirables. On pourrait dire de la même manière, ce qui se produit, si on le met en parallèle avec le dépistage systématique, notamment par les méthodes proactives, d'un certain nombre d'affects qui perturbent l'individu au point qu'on soupçonne que le jeune enfant serait porteur de germes d'agressivité, déjà, qui précoce, qu'il faudrait savoir débusquer, selon l'adage selon lequel qui vole un œuf vole un bœuf, et que nos chers bambins qui se chamaillent dans la cour de récréation et qui infligent éventuellement une petite correction à leurs camarades seront capables de violences autrement plus grandes et autrement plus déviantes ultérieurement. Donc là, on est aussi dans un paradigme, pas simplement du principe de précaution, mais aussi de en quelque sorte d'une sorte de règlement chimique pour éviter à l'individu d'être débordé par des émotions qui sortiraient en quelque sorte d'une norme de comportement ataraxique, etc. Et donc c'est intéressant qu'on a un certain nombre de paradigmes qui se mettent en place. Bon, par exemple, je ne sais plus dans quel film c'était, un film américain assez intéressant, où les assassins étaient arrêtés avant même de commettre le crime. Est-ce que c'était Minority Report? Je ne sais plus.
Oui, c'est ça, oui. Ouais.
Et donc, on peut mettre, indépendamment du fait qu'on a plusieurs mouvements, c'est-à-dire à la fois, on sait très bien qu'un laboratoire peut créer un champ, peut créer une nouvelle offre.
C'est ça.
Au niveau d'affect douloureux, au niveau
de la psyché humaine. Ils créent l'offre de soins et ils étendent sans arrêt l'offre de soins en étendant le nombre des maladies. En fait, littéralement, donc, on dit qu'ils créent des maladies, puisqu'ils remplacent des phénomènes tout à fait ordinaires par une vision pathologique qui propose de les éliminer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les laboratoires donc arrivent à prescrire beaucoup plus de médicaments que par le passé. Certaines personnes âgées en ont jusqu'à 20 ou 30 par jour différents, sont littéralement gavées, et que ce gavage commence aujourd'hui, non seulement dès la naissance, mais ils ont réussi à étendre jusqu'à l'état de pré-naissance. Donc le fœtus lui-même, de plus en plus, étant envisagé comme un marché potentiel fabuleux, dont le premier signe est d'ailleurs la distribution de fluor, la prescription de fluor pour les femmes enceintes. afin de préparer l'enfant à avoir de bonnes dents plus tard. Et du coup, on a des cas de fluorose qui se sont multipliés. On donne aujourd'hui globalement trop de fluor aux enfants. Et donc, même l'agroalimentaire a commencé à prendre l'habitude à mettre du fluor de plus en plus dans ses...
Oui, parce qu'on a aussi l'invention de l'aliment médicament.
Voilà, etc. De l'aliment ou du médicament qui est supplémenté. De l'aliment supplémenté en oligo-éléments et autres vitamines.
Justement des fameux yourtes, là, les Bioactiva.
Ouais. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon bouquin, c'est quand même de l'agroalimentaire. Parce que de plus en plus, on a un recouvrement. C'est plus qu'une alliance objective dans les actions de lobbying. C'est une confusion des intérêts par les placements, les investissements réciproques et les marchés qu'ils s'accaparent, les fusions-acquisitions. On a en gros des groupes agroalimentaires qui de plus en plus se positionnent sur le médicament et des groupes de pharmaceutiques qui eux-mêmes se positionnent de plus en plus sur le secteur agroalimentaire. Donc on a une confusion des intérêts là énorme et ça devient extrêmement grave puisqu'on a des groupes qui occupent de plus en plus toute la chaîne de ce qu'on avale et qui tendent à nous troubler complètement la distinction à terme entre médicaments, aliments, prescriptions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Danone, par exemple, donc a commencé à envoyer des visiteurs médicaux auprès des médecins prescripteurs pour défendre certains produits agroalimentaires, type donc ce qu'on appelle aliment, qui est aussi une invention, on va dire, terminologique. Un néologisme créé pour là aussi donc nous habituer à l'idée qu'un aliment peut être pris comme un médicament, ce qui est une vieille idée, mais là la nouveauté c'est quand même que c'est basé sur une véritable invasion par les laboratoires pharmaceutiques et l'agroalimentaire. Des visiteurs médicaux qui viennent faire de la pub avec de la pseudo-information auprès des médecins généralistes, pour les convaincre de nous prescrire des aliments, ça c'est quand même fort. Enfin des aliments évidemment fabriqués industriellement, là, c'est pas pour nous convaincre de bouffer de la salade.
Alors on va passer à un autre registre qui vous a valu d'ailleurs au niveau de l'étude historique une distinction récente, mais c'est concernant le tabac. Bon, on a eu, ça a mis des siècles, mais on a eu carrément une inversion. On a une consommation, bien évidemment, qui est persistante, mais il s'est produit un certain nombre de transformations au niveau du symbolique, quoi, dans l'appréhension du tabac, absolument extraordinaire, et dans les pratiques, dans la publicité, etc. Puisque vous étudiez justement l'apparition, la diffusion du tabac, depuis le 15e, 16e, etc., en Europe. Et va se mettre en place. On était bon, les royaumes puis les États sentent qu'il y a une manne prodigieuse sur laquelle justement ils vont mettre une fiscalité qui va devenir pour certains États un revenu certainement des plus substantiels, encore plus davantage que l'impôt classique. Donc de là l'intérêt d'une collusion entre les producteurs de tabac et les institutions. On nous l'expliquerait un petit peu plus précisément que je ne le fais, mais on a été dans l'inversion que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à, il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour, dans les pays occidentaux, trouver des campagnes d'alerte jusqu'aux fumetus d'aujourd'hui, etc., etc., jusqu'à à dire qu'il y a un risque là terrible, etc. Et on était encore, on vantait les propriétés du tabac.
Oui, c'est pas qu'on était.
Les médecins prescrivaient du tabac au
19e siècle. Voilà, on n'était pas simplement indifférents, pas du tout. Ouais. C'est que le tabac était prescrit par les médecins pour à peu près tous les troubles.
Là, jusqu'à quand à peu près,
ça a été la panacée universelle. Jusqu'au 19e. Et ensuite, on a commencé à voir de plus en plus de médecins tirer l'alarme et constater, comme d'ailleurs des médecins dès le début, parce que certains dès le début, par exemple sous Louis XIV, quand Louis XIV prenait la décision d'étendre l'usage du tabac parce que c'était une manne pour l'État très importante, c'est donc le monopole du tabac, mais c'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'il fallait amener un maximum de gens à fumer. Et la bonne idée, donc sous Louis XIV, ça a été de distribuer du tabac donc aux troupes. C'est l'origine du tabac de troupe, qui après a donné ces fameuses marques Caporal. Bon, et de donner donc du tabac aux soldats. Et à l'époque, l'armée, en plus, ça durait 7 ans. Avec l'idée qu'en les faisant fumer un bon moment, on allait les transformer en fumeurs à vie et du coup alimenter les caisses de l'État. C'est ce qui a été mis en place et qui a été copié rapidement par les autres nations. Et dans tous les pays... tous les pays riches, on va dire, on a eu donc cette distribution de tabac gratuite, et puis ensuite qui a été un peu réformée.
C'était on ne savait rien sur l'incidence moins cher. Du tabac. On ne savait rien sur l'incidence.
Alors on savait si. Alors on savait que le goût pour le tabac.
Dictologie, oui.
Voilà, on savait. Oui. Bon, pour la dépendance, en gros, on savait qu'il était très difficile d'arrêter quand on avait commencé. Il y avait des observations notant la sclérose des poumons, etc. Mais elles étaient minoritaires et surtout elles n'étaient pas considérées. Ce qui prédominait très largement, c'était une prescription par les médecins de tabac à priser, à fumer, à prendre en pommade, en gélule, etc. etc. Donc c'est tout simplement, quel que soit le mal, en gros, on préconisait du tabac. Ça faisait partie de la pharmacopée la plus ordinaire. Bref, le tabac était considéré comme une panacée universelle. Je serais incapable de donner, d'ailleurs, aujourd'hui, une maladie qui n'appelait pas une prescription de tabac. Donc pendant des siècles, les médecins ont fait ça. C'est vrai que l'alcool aussi en a fait partie, mais moins que le tabac quand même, et avec moins de dégâts, parce que non seulement le pouvoir et les médecins ont transformé la France en une nation de fumeurs, on va dire. Ils ont activement contribué, et de priseurs, parce que la prise et la chic étaient aussi très, très, très importants. Comment ?
Ça a quasiment disparu, ça.
On en vend encore pour la chic.
Ouais. Hein ?
Des gens qui prisent, non, j'en connais pas. Enfin, c'est plus du tabac, en tout cas. Ouais. C'est vrai que là, on a l'exemple d'une corporation, hein, les médecins, qui pendant des siècles sont entrés activement dans l'illusion que le tabac était un bon médicament, sous l'effet, à mon avis, de deux facteurs. D'une part, de leaders d'opinion royaux qui fabriquaient l'opinion. Je cite toujours, c'est Catherine de Médicis qui est le premier grand leader d'opinion, puisque avec son ambassadeur, convaincu par son ambassadeur Nico, qui lui-même donc comptait faire le commerce du tabac, et d'autres d'ailleurs aussi. Donc elle s'est laissée convaincre des bienfaits du tabac, puisqu'elle elle essayait même de convaincre son fils d'en fumer. Elle le prenait, elle, contre la migraine. Donc on se demande comment elle s'y retrouvait d'ailleurs, mais n'empêche qu'elle sait que ça lui fait un très bon effet contre ses migraines. Et quand j'en parle aujourd'hui aux médecins, ils me disent c'est exactement le contraire, qu'il n'y a rien de tel pour filer les migraines. Mais bon, voilà. Effet placebo toujours sous-estimé, énorme. La reine a fait une publicité extraordinaire pour le tabac. Ça a été donc le premier grand leader d'opinion pour les commerçants derrière qui se sont frottés les mains et pour notamment les importateurs de graines, etc. Et il faut dire que longtemps, pas mal de médecins eux-mêmes commercialisaient le tabac qu'ils prescrivaient. Mmh. Hein. Donc là, c'est tout le problème du mélange des genres, conflit d'intérêts. Donc Dieu merci, normalement, un médecin aujourd'hui n'a plus de relations d'intérêt entre sa prescription et la vente des médicaments qu'il couche sur son ordonnance. Le problème, c'est que, comme on le sait, les labos pharmaceutiques ont mis en place tout un système qui tend à intéresser, finalement, les médecins eux-mêmes aux médicaments qu'ils arrivent à vendre, enfin à faire vendre.
Alors, il va y avoir le XXe siècle, ça va être celle des campagnes anti-tabac, etc., etc. Alors, vous revenez beaucoup sur des choses beaucoup plus récentes, hein, qui sont notamment tout ce qui concerne, par exemple, la loi Evin. Et le fait que cette loi n'a pas été, par exemple, pas passée comme ça aussi facilement. Il y a eu des tentatives de la faire abroger. Donc, on peut revenir un petit peu sur ces épisodes, qui est peut-être le plus récent dans la liste que vous faites, notamment par rapport au... au tabatier.
Alors, c'est pas l'exemple le plus récent, mais parce qu'il y a des exemples plus récents encore avec le lobbying auprès de l'OMS par les firmes de tabac, qui préfigurent d'ailleurs ce qui s'est passé avec le vaccin contre la grippe A, hein, c'est-à-dire quand même l'OMS a fait l'objet d'un lobbying intense et d'une pénétration même jusqu'à ce que certains groupes soient phagocytés littéralement par des experts entre guillemets financés par les cigarettiers. La direction de l'OMS elle-même avait exigé à un moment un rapport, une enquête interne là-dessus, et avait mis en évidence des cas de corruption où on avait vraiment franchi toutes les limites morales imaginables, et pour convaincre donc des groupes de l'OMS de ne pas valider la théorie et les démonstrations scientifiques des effets nocifs du tabagisme passif. Parce que ça, le tabagisme passif, ça a toujours effrayé énormément les cigarettiers, la reconnaissance de ça. Et heureusement, finalement, l'OMS a réussi à mettre en évidence ces opérations de corruption et de lobbying et à rester, donc, du coup, sur ses positions concernant le tabagisme passif. Parce que le problème jusqu'au tabagisme passif, c'est-à-dire, en gros, jusqu'aux années 90... 80, mais surtout 90, l'idée c'était que chacun est propriétaire de sa santé, et s'il la détruit, c'est lui qui voit. Et on n'a pas à l'obliger à prendre en charge sa santé comme on veut. À partir du moment où il a été démontré que les fumeurs faisaient du mal aux autres, et on avait là une épidémiologie qui chiffrait les morts et les malades, etc., et que c'était vraiment pas rien, c'était quand même des milliers par an. Donc là, à ce moment-là, le problème devenait très différent. Les cigarettiers ont mis en place des opérations de manipulation et d'influence là, extrêmement fortes là-dessus, parce qu'ils savaient que là-dessus, là, c'était tout simplement leur avenir qui était menacé. Là, c'était le plus gros coup qui pouvait leur arriver. Et ce qui a donné lieu, par exemple, jusqu'à Genève, puisque je parle de ce cas... Donc des universitaires qui influents, très influents dans le milieu de la médecine en particulier, donc faisaient de fausses études d'épidémiologie pour démontrer que le tabagisme passif en fait n'avait pas d'impact ni sur les enfants ni sur les adultes, etc. Et qui dont il a été démontré après en procès en fait qu'ils avaient bel et bien touché de l'argent pour biaiser en fait leurs études et présenter des faux résultats rassurants. Je ne sais plus ce qu'on disait du coup.
Oui, ben justement, par rapport. On parlait de la loi Evin, j'évoquais la loi Evin.
Alors, c'est vrai que la loi Evin. Alors, il y avait la loi Veil précédemment. La loi Evin a étendu l'interdiction et ça couvrait aussi bien le tabac que l'alcool. Donc, on va dire qu'on était en une situation de quasi. D'interdiction quasi complète de toute publicité pour l'alcool et le tabac. Le lobbying, évidemment, là-dessus a été intense. Et on a vu, même sous le gouvernement de gauche, socialiste, avec l'arrivée de François Mitterrand, où il y a eu un énorme espoir à ce moment-là pour tous les acteurs de santé publique, notamment Claude Gaud, j'en parle, Dubois, etc., un énorme espoir qu'enfin soit développer cette interdiction, sérieusement appliquée, et qu'on mette fin à ce lobbying intense des cigarettiers et des alcooliers. Et on voit dès le début, François Mitterrand composer avec ses lobbies très puissants et finalement laisser se mettre en place des opérations de lobbying, en particulier des alcooliers, avec l'autorisation de la publicité pour la bière à certains degrés, etc. Enfin, et toujours avec des opérations bien dissimulées, une rhétorique bien en place. Et donc on a vu à ce moment-là la loi Evin commencer à se faire ébrécher, à perdre des aspects, hein, des articles. Et jusqu'à récemment encore, puisque la loi Evin reste l'ennemi numéro un, on va dire, des alcooliers et des cigarettiers. Et les alcooliers, donc récemment, ont réussi à obtenir de Roselyne Bachelot en particulier, donc qu'elle autorise la pub pour l'alcool sur le net. Tout en sachant que les enfants, évidemment, c'est devenu aujourd'hui leur principal média, pour le public aussi d'ailleurs, mais surtout pour les enfants, et que là il s'agissait de protéger les enfants, et la seule chose qui a mais on a l'impression que c'est plus rhétorique qu'autre chose, qui a concédé Bachelot à l'esprit de la loi Evin, ça a été d'interdire la publicité pour l'alcool sur les sites destinés aux enfants. Enfin, vous imaginez que pour les sites destinés aux enfants, on est autorisé la publicité pour l'alcool. Donc, elle a eu beau jeu de dire « j'interdis la publicité sur les sites pour enfants », n'empêche qu'elle l'a autorisé sur le net. Et que les enfants, ils vont pas spécialement sur les sites destinés aux enfants.
Habile. Et on peut revenir aussi sur un... Il y a aussi les parades des industriels du tabac, sachant anticiper éventuellement un reflux des ventes par des astuces telles que rendre les cigarettes plus inflammables. Alors là, je ne sais plus quel produit, est-ce que c'est l'ammoniaque, c'est le chlore, c'est-à-dire qu'on va vendre moins de cigarettes, mais par contre, les cigarettes, la combustion des cigarettes va être beaucoup plus rapide, donc finalement, on y retrouvera.
Oui, alors en fait, il s'agit de vendre beaucoup plus de cigarettes, en mettant des produits et en concevant un conditionnement de la cigarette telle qu'elle va brûler plus vite. Et autrement dit, ça donne tout simplement ce phénomène que tout le monde a constaté, c'est que même si j'arrête de fumer ma cigarette, je la pose dans un cendrier, en général, elle brûle jusqu'au bout.
Ce qui est responsable d'ailleurs de morts, que vous soulignez.
Et c'est la principale cause, alors ça on le dit, personne n'en parle en France, et c'est la principale cause des incendies, enfin de la mortalité par incendie domestique. C'est la principale cause des incendies dans les maisons et des morts. Et on peut considérer qu'en France, on en a au moins à peu près 500 par an
qui sont dus au tabac. Je suis un rescapé. Il y a 20 ans, j'ai fait effectivement.
Ah oui, et donc, en fait, c'est une découverte qui a été faite par l'opinion publique new-yorkaise. Après, donc c'est récent tout ça, c'est après l'attentat contre les tours du World Trade Center, et les Américains qui étaient scandalisés par la manière dont l'architecture, la sécurité de ces tours n'avait pas été plus efficace contre la propagation de l'incendie. Et du coup, ils se sont souciés des normes anti-incendie et de tout ce qui provoquait des incendies. Et les New-Yorkais ont obtenu les premiers, parce qu'ils l'ont découvert, donc que les cigarettes qui se consumaient toutes seules, en fait, ne se consumaient pas naturellement toutes seules, mais parce que le conditionnement et le traitement du tabac par les cigarettiers étaient faits exprès pour que ça se consume jusqu'au bout, même quand vous avez le dos tourné. Bon. Donc, entre deux bouffées de cigarettes, la cigarette continue à brûler plus vite qu'elle ne devrait normalement. Et ils ont réussi à imposer aux cigarettiers qu'ils arrêtent ce traitement. Donc, ils ont eu les premières cigarettes auto-extinguibles. Enfin, le mot semble compliqué pour un phénomène naturel. Vous arrêtez de tirer sur votre clope, elle s'éteint. Comme ça se passait d'ailleurs pour les cigarettes qu'on roulait soi-même, qui présentaient cet inconvénient, mais ce plaisir aussi pour le fumeur, de rallumer sans arrêt sa cigarette, etc. Ça se consomme moins vite. Donc, vous voyez, une cigarette qui se consomme très vite, ça veut dire, à l'échelle de tous les fumeurs, beaucoup plus de cigarettes vendues à l'année. C'est des milliards. Et donc, les New-Yorkais ont réussi à imposer l'interdiction des cigarettes qui se consument toutes seules. Le Canada a réussi à obtenir ça. On a eu 6 ou 7 États après américains qui ont réussi aussi à obtenir ça. Mais la plupart des pays dans le monde continuent à avoir des cigarettes qui se consument toutes seules et qui sont à l'origine de la majorité des incendies domestiques et des morts donc dus à ces incendies.
On pourrait évoquer, parce qu'on n'est pas loin de la fin de l'émission, mais on pourrait évoquer aussi des stratégies diversives comme ça, utilisées par des firmes, notamment par les alcooliers. Citer sur le fait qu'effectivement, on voit aussi des alcooliers se lancer dans du mécénat culturel, mécénat artistique, une fondation. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement une espèce de blanchiment d'image. Parce que ce sont pas forcément des firmes qui ont. Bon, je prendrai quand même. On parle beaucoup de Ricard en France.
La fondation Ricard, qui est sûrement la plus active en France, qui soutient une grande partie du rock français et même au-delà, de plus en plus, qui organise des conférences, débats sur des thèmes philosophiques, sociologiques, etc. Qui finance souvent aussi des chanteurs de variété.
On a aussi un plus espace d'art contemporain.
La peinture, la sculpture. Et ce qu'avait donné d'ailleurs à New York, c'était Philip Morris qui finançait une grande partie de la vie culturelle new-yorkaise, en fait. Lorsqu'il s'est agi de faire monter au créneau la population contre l'interdiction de fumer dans les lieux publics, Philip Morris a menacé toutes les troupes et tous les artistes vivant avec ces subventions de leur couper les subventions s'ils ne manifestaient pas eux-mêmes contre l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mmh. Et donc, du coup, vous imaginez la parano qui s'est installée. Et en fait, toutes ces méthodes-là ont une histoire. Hein, encore une fois, là, ce que je retrace essentiellement, c'est la manière dont Édouard Bernays, qui est le plus influent de tous les lobbyistes, a mis en place tous ces procédés pour vendre aux Américains le pire. Ces gens qui avaient tous, qui n'avaient pas besoin, par exemple, de mouchoirs jetables parce qu'ils utilisaient tous des tissus et que ça allait très bien, il a réussi à faire passer aux États-Unis le Kleenex, par exemple, la viande en conserve, alors qu'on avait les plus grands éleveurs du monde qui avaient tous leur bétail. On arrivait à leur vendre de la conserve, hein, de la viande en conserve. Idem pour le jus d'orange, en boîte, en bouteille, etc. Et puis le tabac, puisque c'est celui qui a réussi à lancer le tabagisme féminin et à assimiler le tabac, les cigarettes, à des symboles de liberté. Et notamment, bah, on a vu comme ça les Américains débarquer avec leur tabac américain, qui le lançaient comme ça aux foules. Et je rappelle maintenant toujours que les camps militaires américains étaient nommés par des marques de cigarettes différentes. Donc la libération avec le tabac.
Oui. Alors peut-être, quel est votre sentiment par rapport aux avancées du lobbying? On est quand même finalement dans un relatif recul, dans un rapport de force qui joue davantage en faveur des mesures de salubrité publique d'une manière générale. Je parle pour ce qui est des pays industriels avancés, de l'Occident en tout cas. On est quand même dans des avancées, c'est-à-dire dans des rapports de force qui jouent plus en faveur des mesures de salubrité publique par rapport aux... Je parle moins des médicaments. Ça, à mon avis, mais en ce qui concerne en tout cas les alcooliers et les tabatiers.
Alors, je dirais pas ça, parce qu'il y a un phénomène qui se passe, qui est la sophistication des méthodes. C'est-à-dire, on n'a pas d'invention de méthodes vraiment nouvelles. Tout est inventé avec Édouard Bernays, là, comme je le montre, en l'espace de quelques décennies. Mais on a aujourd'hui une sophistication des représentations. C'est-à-dire qu'en gros, on a des cabinets de lobbying, des entités de lobbying aujourd'hui, qui représentent jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises ensemble. Et pas des petites, mais les plus grosses. Qu'on retrouve donc faisant pression ensemble, en même temps, sur tel article de loi et se renvoyant l'ascenseur. Et en face, on n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire que le monde associatif, citoyen, on va dire, est très mal représenté, très peu. Et on sait que pour tous les lobbyistes qui sont présents à Bruxelles, par exemple, et qui agissent sur le Parlement européen, 90% c'est des gros industriels et les associations ne représentent que 10 à 15% en fait de ce qu'on pourrait appeler les lobbyistes, c'est-à-dire les représentants qui vont auprès des élus. Et d'ailleurs, je suis complètement contre l'idée d'appeler lobbying toute démarche auprès des élus. C'est un mot qui tend à banaliser cette activité qui est souvent extrêmement douteuse et immorale. C'est un mot qui fait disparaître l'inégalité de représentation auprès des élus qui est énorme. C'est-à-dire que les élus, grosso modo, reçoivent très peu les associations et énormément les industriels, avec des cadeaux. Je citerai le cas de Karim Adeli, puisque j'en parle dans mon dernier livre sur Europe Écologie, qui vient de sortir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais Karim Adeli, qui est une des élus d'Europe Écologie, et donc me disait bah mon armoire est déjà à moitié pleine des cadeaux des lobbyistes alors qu'il y a quelques semaines que je viens d'arriver. Et je les mets dans mon armoire, j'attends qu'elle soit pleine, et là j'organise une conférence de presse pour montrer aux journalistes comment pratiquent les lobbies industriels. Et il y avait même dedans, d'ailleurs, par exemple, la proposition de rémunération contre certaines informations qui seraient données sur l'avis du Parlement.
Donc du coup, oui, en plus, en ce qui concerne la consommation de tabac, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau, par exemple, de, je sais pas, des États-Unis, par exemple, de l'Europe? Est-ce qu'il y a un contre-coup?
Alors, pour le tabac, oui. Donc, bah, on l'a vu en France, hein, donc ça s'est développé. C'est-à-dire que les campagnes anti-tabagiques, là, sur la base d'études implacables, donc montrant la mortalité, je rappelle qu'en France, 66 000 morts par an. Et c'est encore rien par rapport à ce qui arrive, c'est-à-dire le tabagisme féminin que va commencer vraiment à s'exprimer en termes de mortalité. Disons à partir des années là d'aujourd'hui, ça va monter considérablement. On considère que 1 milliard de personnes vont grosso modo être dégommées au cours du siècle qui vient là. Mmh. Donc c'est, si vous comparez aux guerres, on va dire que le tabagisme tue, comme aucun autre conflit n'a pu tuer, et ça en temps de paix. Et là il y a quelque chose donc qui va pas du tout. Mais la représentation par rapport au tabac, effectivement, a changé. Malheureusement, c'est pas vrai de tous les produits qui font l'objet d'un lobbying intense.
En tout cas, merci à vous, Roger Langlais, pour cet entretien.
Merci.
Donc, je rappelle le titre de votre livre. Alors, Roger Langlais, Lobbying et santé. Donc, c'est publié par Mutualité Française, édition
Tapage. Et les éditions Pascal.
Les éditions Pascal, Mutualité Française.
Oui.
Et la Tapage. Alors là,
c'est la collection.
Et c'est la collection Tapage.
C'est le nom de la collection.
D'accord. Collection Tapage, Lobbying et santé, édition Pascal, Mutualité Française.